Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin, de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.
Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là pour notre première rencontre, c'est la première rencontre de ce trimestre. Ce soir, on présente deux livres, un qui s'appelle Laïcité, l'autre Étranger. C'est à noter que c'est la première rencontre d'une sorte de cycle qu'on fait sur les questions antiracistes. Le 16 février prochain, on reçoit Solène Brun autour de son livre Derrière le mythe métis. Et le 1er mars, c'est Olivier Lecourt Grand Maison qui va venir présenter un bouquin qui s'appelle Racisme d'État, État raciste. Donc ce soir, une rencontre croisée autour de deux livres, mais surtout autour de deux mots et deux notions. En l'occurrence de concepts malmenés par l'actualité et la langue au pouvoir. Karine Parot, bonsoir, vous venez présenter Étranger. Vous êtes professeure de droit à l'université de Cergy et vous êtes membre du GISTI, donc le groupe d'information et de soutien des immigrés. Et vous avez fait paraître en 2019 le livre Carte blanche, l'État contre les étrangers, c'était aux éditions La Fabrique. Et vous avez co-réalisé le documentaire Sécurité globale de point, de quel droit ? Stéphanie Hennette-Vaucher, bonsoir. Vous êtes professeure de droit public à Nanterre et présidente du centre de recherche et d'études sur les droits fondamentaux. Vous avez publié différents livres sur la laïcité, la bioéthique, ainsi que le livre « La démocratie en état d'urgence, quand l'exception devient permanente ». Vous venez présenter deux titres parus dans la collection « Le mot est faible ». Donc c'est une collection qui est dirigée par Christophe Granger à la maison d'édition Anna Mossa. Le directeur de collection dit « Il s'agit de s'emparer d'un mot dévoyé par la langue au pouvoir, de l'arracher à l'idéologie qu'il sert et à la soumission qu'il commande pour le rendre à ce qu'il veut dire. » Alors peut-être pour commencer, avant de rentrer plus en détail dans chaque bouquin, pourquoi pour vous est-ce qu'il a été important de publier ces courts textes, encore plus aujourd'hui, et d'intervenir sur ces deux termes, donc étranger et laïcité? Et comment est-ce que cette volonté de reprendre des termes dits dévoyés par le pouvoir s'ancre dans vos travaux ou dans votre militantisme ?
Ben, bonsoir et bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation. Pour laïcité, pourquoi diable faire un livre comme celui-là ? Je crois que la description que vous rappeliez de la collection... correspond certainement à tous les mots, mais enfin m'a paru correspondre vraiment bien au mot laïcité, dont on parle à peu près sur tous les sujets. On demande quand même beaucoup à ce petit mot, puisqu'il doit répondre à toutes sortes de questions sur les repas dans les cantines, les tenues à l'école, au travail ou ailleurs, sur les plages, dans les piscines. Et puis, il doit répondre aussi aux enjeux de sécurité. Il doit répondre aussi aux enjeux d'intégration. Enfin, il est vraiment convoqué sur tellement de terrains que, il se prête assez bien à un besoin ou un effort de clarification. Et puis, l'autre raison, c'est aussi qu'il me semble que c'est un terme dont la signification a beaucoup évolué, ce qui en soi n'est pas problématique. Il n'y a pas de raison que le sens des mots soit figé. Mais il se trouve qu'il a évolué d'abord dans un sens qui est assez problématique à différents égards au regard des libertés individuelles et puis au regard des enjeux d'égalité et de non-discrimination. Et puis surtout, souvent son évolution est un peu masquée ou déniée par un grand nombre d'acteurs politiques et sociaux qui l'invoquent et qui prétendent continuer à invoquer une laïcité classique à laquelle ils accolent souvent le terme de républicaine, comme s'il s'agissait de parler encore de la laïcité façon fin du 19e, alors qu'il me semble qu'il y a vraiment beaucoup d'écarts et beaucoup de torsions qui ont été imprimées à la laïcité telle qu'on en parlait au moment où elle a été consacrée par l'œuvre législative de la Troisième République et aujourd'hui, quoi.
Merci beaucoup pour l'invitation, pareil, bonsoir à toutes et à tous. Cette petite collection, elle est vraiment super, mais il me semble aussi que chaque mot n'est pas traité de la même manière, forcément, puisqu'il y a une grande subjectivité des autrices et des auteurs. Et puis, je pense aussi que l'approche, même si le petit texte de Christophe Granger est super, n'est pas identique pour tous les mots. Je pense qu'il y a des mots qu'il faudrait qu'on essaye un peu de sauver. Et puis, par exemple, étrange. Puisque c'est le mot que j'ai traité, moi j'ai pas tellement envie de le sauver. Dans le sens où, quelque part, moi j'aimerais qu'il n'y ait plus d'étrangers et plus de français, puisque si la distinction se fonde sur la nationalité, on peut. Enfin, c'est pas l'objet du livre, hein, mais on pourrait essayer de penser un monde où il n'y ait plus de distinction fondée sur la nationalité telle qu'elle existe aujourd'hui. La démarche du bouquin, et ce pourquoi j'ai proposé à Chloé Pathé de faire ce livre, c'est pour essayer de montrer à quel point cette catégorie qui est aujourd'hui, ce mot qui est aujourd'hui recoupe essentiellement une catégorie juridique, hein, on pourra y revenir, cette catégorie juridique, elle est extrêmement récente, et on essaye les discours dominants essayent de nous faire penser que ce distinguo entre les Français et les étrangers est quelque chose de très important, puisqu'il y aurait une identité nationale, on aurait un mode de vie propre, une culture propre, les Français et les Françaises, enfin, surtout les Français, parce que mais en réalité, quand on remonte l'histoire du concept de nationalité et l'histoire du distinguo, on s'aperçoit que, grosso modo, il apparaît dans sa forme moderne, l'étranger, à la fin du 19e et en fait plutôt même au début du 20e. Donc, c'est-à-dire il y a très peu de temps à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Donc ce qu'on a fait en 100 et quelques années, on pourrait le défaire et puis inventer autre chose.
Alors Karine Parot, vous faites dans le bouquin quand même un petit peu une histoire de la notion d'étranger et de la situation des personnes étrangères en France. Et on comprend que ça a énormément changé. Enfin, on aura l'occasion de revenir dessus. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, l'étranger, c'était celui qui habitait dans le village d'à côté, quoi. Vous dites dans le bouquin que c'est au XIIIe siècle, pour la première fois, qu'on parle des sujets naturels du roi de France comme étant des individus qui partagent des coutumes et une langue. Et c'est aussi à partir de ce moment-là, donc, comme vous le disiez, que l'étranger se conçoit parallèlement à l'identité locale ou nationale. Vous montrez donc tout au long du livre que le statut des personnes étrangères reste toujours à mettre en perspective avec celui des personnes françaises, là, aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez, du coup, revenir peut-être sur l'histoire de ce terme, peut-être jusqu'au 19e siècle, à peu près ?
C'est un exercice un petit peu difficile de balayer donc l'histoire du concept d'étranger en 7 minutes. J'ai essayé de le faire dans le livre en une dizaine, quinzaine de pages. Non, parce que ce qui est intéressant, et donc il ne faut pas que je parle trop vite, parce que j'ai envie toujours de dire plein de trucs. Et comme je vais essayer de... Vous m'excuserez, mais je suis obligée de faire des raccourcis qui sont parfois un peu... qui ne sont pas forcément très satisfaisants. Mais moi, j'ai fait remonter l'histoire de ce concept. Grosso modo, ce qui m'intéressait, c'était la notion moderne d'étranger, parce qu'il y a toujours eu des étrangers dans la Grèce antique. Mais je me suis dit, non, je ne vais pas commencer dans l'Antiquité. Les cités grecques, c'est très intéressant. Hein. On en a hérité l'idée de citoyen français qui apparaît à la Révolution française. Mais c'est quand même très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, le fil est difficile à tirer véritablement. Mais quand même, moi, je trouve qu'il y a quelque chose à aller chercher du côté de l'histoire du Moyen-Âge, ce que tu disais, le XIIIe siècle, mais disons grosso modo que la formation de l'État moderne, avec un territoire, une population et un gouvernement un tout petit peu centralisé, apparaît XIIIe, XIVe, XVe, tu vois. Mais pendant le Moyen-Âge, ce qui est intéressant, c'est que les pouvoirs se superposent. Il y a le pouvoir du prince, il y a le pouvoir plus ou moins du roi parfois, qui augmente au fur et à mesure. Bon, il y a des sortes de va-et-vient, mais quand même, la tendance, c'est qu'au fil du Moyen-Âge, le roi prend plus de pouvoir. Et il y a les pouvoirs ecclésiastiques et d'autres encore. Donc, à cette période, une personne, elle est soumise à plein de sortes de règles et c'est plus les pouvoirs s'exercent plus sur une personne que sur un territoire, donc c'est des modes de suggestion qui sont très différents. Et d'ailleurs, donc on parlait pas de français, on parlait de sujet du roi de France, c'est un peu l'ancêtre du français, si je puis dire. Et voilà. Et donc, bon, les choses se transforment, mais grosso modo, pour, je fais un bond un peu dans l'histoire. J'arrive au 19e siècle. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au 19e siècle, les étrangers... l'immigration à cette période, elle, c'est l'immigration de voisinage. Donc, c'est des Belges, des Italiens, des Allemands qui vivent près de la frontière. À la fin du 19e, avec la révolution industrielle, ils commencent à apparaître aussi dans les banlieues des grandes villes. Mais bon, grosso modo, c'est ça. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à la fin du 19e, par le jeu des règles qui sont encore assez floues, pour le dire vite, dans ces zones frontalières, l'État n'est pas en mesure de savoir qui est français et qui est étranger. C'est-à-dire qu'il y a des fils d'immigrés belges qui sont arrivés là, depuis une génération, deux générations, ils parlent français, ils sont là. Personne ne sait s'ils sont français ou s'ils sont belges. Et grosso modo, y a pas vraiment, à cette période-là, quand tu es étranger, tu n'as pas vraiment d'inconvénients, tu peux te marier, tu peux conclure des contrats, tu peux faire ce que tu veux. Y a pas, jusqu'à la fin du 19e, il n'y a pas vraiment de restrictions en termes de droit au séjour. Et par contre, il y a un service militaire qui est très long. Donc les types, évidemment, je dis les types parce que les femmes, elles n'ont pas, quasiment pas de statut. Enfin, elles ont un statut juridique qui est encore très... elles n'ont pas les droits civiques identiques à ceux des hommes, etc. Donc... et notamment, elles ne transmettent pas la qualité de français de la même manière. Mais bref, tout ça pour dire que il y a donc cette population, les députés parlent d'une population à l'appartenance douteuse dans ces zones frontalières, dont on ne sait pas trop bien s'ils sont des Français et des étrangers. Et en particulier, pour pouvoir les mobiliser pour le service militaire et pour la guerre, c'est là que l'État fixe des règles, commence à fixer des règles un peu strictes permettant de savoir qui est français. Et c'est à partir du moment où l'État est en mesure de savoir qui est français qu'il est en mesure de savoir qui est étranger. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est pour ça que j'ai dû faire un peu cette petite généalogie de la nationalité française, puisque l'étranger est construit à contrario quoi, du français. Et voilà, donc grosso modo, jusqu'à la fin du 19e, il n'y a pas de règles strictes. Et après, j'arrête. C'est ça qui est intéressant. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, il n'y a pas de carte. Et donc, il ne faut pas penser qu'il y a d'un côté le concept de nationalité, le concept de français, et de l'autre, un bout de papier. Hein. Tant qu'il n'y a pas de bout de papier, bah, quelque part, la qualité, la preuve, hein, la question de la preuve, surtout dans l'espace public, aujourd'hui, on voit les enjeux qui s'attachent à ces questions, eh bien, la qualité, elle reste très évanescente. Et donc, c'est en 1917, pendant la Première Guerre mondiale, et évidemment, ça n'est pas un hasard, que apparaît la carte d'identité de travailleurs étrangers et coloniales, carte d'identité et de circulation d'étrangers, travailleurs et coloniales. Et donc, ça, c'est aussi un autre aspect très important, c'est que l'étranger, il est toujours, quand il commence à être vraiment appréhendé par l'État sérieusement, il est appréhendé en tant que travailleur, en tant que, un peu en tant que soldat chair à canon, et quand on veut en faire du français, et sinon après en tant que permettant de satisfaire les besoins du marché du travail.
Alors, durant le 19e siècle et le Second Empire, vous rappelez que les classes populaires et laborieuses, elles étaient considérées comme dangereuses et extérieures à la nation. Et vous mentionnez Gérard Noiriel qui rappelle que cet argumentaire, il est recyclé pour parler en fait, de la main-d'œuvre étrangère un petit peu plus tard. Et on comprend aussi en vous lisant que l'accueil ou non des personnes étrangères coïncide avec des moments de réajustement du capital, donc que ce soit après les deux guerres mondiales ou pendant les dites 30 glorieuses. Alors, quels ont été les discours mobilisés pour rendre le travail des personnes étrangères nécessaire, mais en même temps pour rendre ces personnes dangereuses et extérieures à la nation ? Et à quel point le statut des étrangers est dépendant du marché du travail et des ajustements du capital ?
Alors, il y a plusieurs temps. Il y a des constantes, mais à chaque période de l'histoire, il y a des spécificités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du 19e, par exemple, où il y a à un moment donné, il y a une petite une récession, je ne sais plus comment on appelle ça, la grande dépression, ils ont toujours des terminologies bizarres, la grande dépression, et après, ça repart. Hop, l'économie repart, donc les patrons ont besoin de main-d'œuvre. Ça aussi, moi, je trouve ça très intéressant. À cette période-là, fin du 19e, la France est un des premiers pays européens d'immigration. Les gens viennent. Alors, il y a aussi beaucoup de gens qui partent d'Europe vers l'Amérique du Nord. Il y a un gros flux, hein, 40 millions d'Européens qui vont chercher une vie meilleure aux États-Unis. personne ne leur demanderait. Après, ça se refermera. Mais à cette époque, il y a de la liberté de circulation pour les travailleurs et les travailleuses. Hein. Il n'y a pas de problème. Et donc, il y a beaucoup d'Européens qui partent en Amérique du Nord. Mais il y a aussi beaucoup d'Européens qui viennent en France parce que c'est la révolution industrielle, parce que donc les petites manufactures deviennent des usines, se concentrent, hein, les points de production se concentrent et demandent beaucoup de main-d'œuvre, plus que les campagnes environnantes ne peuvent en demander. Et l'agriculture, à cette période aussi, ça c'est important, n'est pas mécanisée. Hein. L'agriculture française va vraiment se mécaniser avec des tracteurs et compagnie dans les années 1950. Donc pendant toute cette, jusqu'en 1950-60, grosso modo, l'agriculture est une grosse mangeuse de bras, hein, parce qu'il faut bêcher la terre et tout, c'est hyper dur. Et donc, il faut être beaucoup. Et donc la France attire beaucoup de travailleurs d'autres pays où la révolution industrielle se fait moins sentir. Et donc, les patrons, à ce moment-là, ont besoin de main-d'œuvre. Mais il y a un discours à la Chambre des députés justement parce que les Français, eux, il y a un petit moment où entre la Grande Dépression et où l'économie repart, où il y a un petit hiatus entre un discours, c'est les premières fois où on entend des discours anti-étrangers, puis il y a quelques émeutes, il y a quelques massacres, mais bon, c'est difficile, j'ai essayé de le faire, moi je suis pas historienne, mais c'est difficile de savoir dans quelle mesure ces discours de haine, ces discours racistes correspondent vraiment au ressenti de la plupart des ouvriers. Ce qu'on voit quand même, c'est que, et ça, Laurent Dornel l'a bien montré dans cette socio-histoire de la France hostile, que c'est dans les endroits où les conditions de travail sont les plus dures qu'effectivement, il y a des heurts entre les ouvriers étrangers, par exemple, italiens ou belges, et les ouvriers français. Mais à beaucoup d'autres endroits, ils se lient ensemble contre les patrons, etc. Donc, bon, il y a toujours cette tension mais les libéraux gagnent toujours. À cette période de la fin du 19e, il y a un truc, une sorte d'omnibus. Il y a 15 ou 20 projets de loi qui arrivent pour qu'on taxe le travail des étrangers. Les Français, les ouvriers, la CGT et compagnie disent on veut taxer. Quand un employeur emploiera un étranger, il devra payer une taxe. Et ça, mais je sais plus, 10, 15, 20 projets de loi qui arrivent. Mais tac, 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 retoqués. Parce que les libéraux ne veulent pas qu'on taxe le travail des étrangers. On en veut des étrangers. On veut les exploiter librement, en toute tranquillité. Voilà. Donc après, bon, bah, ça revient toujours. Après, on pourrait parler aussi de la paix. Je ne sais pas de quoi tu veux que je parle. Il y a tellement de choses à dire. C'est-à-dire que ce qui est vrai, pour faire court, c'est qu'à chaque fois qu'on a besoin de main-d'œuvre, quand on a eu vraiment un gros besoin de main-d'œuvre, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, qu'on a envoyé les Français se faire tuer au front, et bien, il fallait des gens pour les remplacer dans les usines, des gens pour les remplacer aux champs. Là, l'État a commencé à importer de la main-d'œuvre étrangère. On est allé en Chine avec des bateaux, on est allé dans les colonies, on les a cherchés, on les a triés, on a regardé leurs dents et tout ça, on les a triés, on les a fait monter dans les bateaux, on les a mis au travail dans des baraquements, etc., dans un régime de travail forcé organisé par l'armée. Il y avait aussi des travailleurs étrangers un peu spontanés qui travaillaient eux aussi dans les champs et dans les usines, mais moins, ils étaient encadrés eux par le ministère du Travail, pas par le ministère de l'Armée. Bon, et puis quand la guerre a été terminée, tous ces travailleurs coloniaux, cette main-d'œuvre exotique, jugée fainéante, non assimilable, même avant que l'armistice soit signé, on a essayé de les remettre dans les bateaux. Voilà. Si vous voulez, l'histoire du XXe siècle et l'histoire du XXe siècle de la gestion des flux migratoires, dont on pourrait penser qu'il commence justement avec cette Première Guerre mondiale, c'est une répétition de ça. Quand on a eu besoin, dans l'entre-deux-guerres, de personnes, on les a fait revenir. Et dans les années 30, crise financière, machin, il reste de la place à devant, si vous voulez. Crise monétaire aux États-Unis qui crée une récession économique en Europe, ça aussi c'est quand même un peu étrange, hein, mais bon, il faut pas s'y faire, mais c'est des rouages du capitalisme qui sont quand même assez dingues, et donc fermeture des aciéries, des machins, des mines et tout ça, parce qu'ils travaillent toujours les étrangers dans les emplois les plus difficiles, dans les mines en particulier, bon. Et après je termine là-dessus, et dans les années 30, quand il y a eu cette récession économique et donc une montée du chômage, eh bien est réapparu un discours anti-étranger, et l'État, ça c'est intéressant parce que c'est un parallèle avec la période actuelle. L'État, les préfets ont édicté plein d'arrêtés d'expulsion et ont mobilisé la notion de menace à l'ordre public ou de trouble à l'ordre public. Le type, il roulait à vélo sans phare, pouf, allez, hop, menace à l'ordre public, arrêté d'expulsion. Enfin, des trucs, vous voyez, des prétextes pour se débarrasser des étrangers, des travailleurs surnuméraires. Donc voilà.
Bah, dans le bouquin, vous parlez pas mal de la situation des travailleurs polonais, notamment, où genre vraiment les industriels sont allés les chercher en Pologne et dès le début de la crise des années 30, ils ont tous renvoyé, mais sur des motifs complètement ouf. Ou du coup, c'était les chefs d'entreprise qui intervenaient auprès des préfets directement. Enfin, un truc un peu hallucinant. Mais alors, du coup, vous avez mentionné un petit peu ça. Moi, je voulais revenir sur le début de ces fichiers centraux qui essayent de catégoriser les étrangers. Quoi. Du coup, il y a les étrangers dits blancs et les étrangers exotiques. Il y en a beaucoup qui sont issus des colonies françaises aussi. Et par exemple, vous mentionnez aussi que, alors que l'Algérie, c'était alors un département français, les Algériennes et Algériens étaient aussi considérés comme des étrangers, enfin, en tout cas, comme non français et indésirable en France. On comprend qu'en contexte colonial, même les sujets supposément français demeurent considérés étrangers. Vous écrivez à un moment dans le livre que le droit à la nationalité française, ça a toujours été le droit à repeupler, déporter, coloniser et précariser. Plus loin, vous écrivez qu'il est un outil forgé par l'État pour fournir de la chair à canon, pour discipliner les travailleurs, assujettir et humilier les colonisés, réguler l'immigration, bref, gérer les populations. Alors, est-ce que vous pouvez préciser ces droits que s'octroie l'État pendant la période coloniale et peut-être pendant la période post-coloniale aussi?
Alors, je voudrais juste préciser, c'est-à-dire ce que tu citais, c'est-à-dire que c'est l'idée que donc le distinguo, le critère entre français et étranger, vous avez, voilà, c'est la nationalité française. Et ce que je disais, c'était que les voies d'octroi de cette nationalité française ont toujours été instrumentalisées pour les besoins de l'État. Les besoins de l'État capitaliste ou les besoins démographiques. Après une guerre, il faut réarmer la natalité. Hein, mais voilà, même après la Deuxième Guerre mondiale, De Gaulle a dit pareil, il faut appeler à la naissance des milliards de beaux bébés ou des millions de beaux bébés français. Mais il dit que ça ne va pas suffire, il faut aussi qu'on récupère des étrangers et qu'on les naturalise. Donc, c'était pour dire aussi que derrière les grands discours, et Stéphanie en parlera mieux que moi, sur les valeurs de la République et compagnie, derrière ça se cache à peine voilé, derrière ça, ce qu'il y a en tout cas dans la réalité des textes et de leur pratique par l'administration, la haute administration, c'est satisfaire les besoins de l'État capitaliste, voilà, et nationaliste dans le mauvais sens du terme. Voilà. Après... pour les colonies, c'est pareil. Par exemple, donc les colonisés, les Français musulmans d'Algérie, pour la plupart, comme ils étaient qualifiés, une des raisons pour lesquelles on a voulu ouvrir la nationalité française aux personnes, enfin, avec le critère du double droit du sol. Vous savez que pour être français aujourd'hui à la naissance, il faut soit avoir un parent français, c'est ce qu'on appelle le droit du sang, ce qui date du code Napoléon et qui est aujourd'hui encore en vigueur. C'est le premier, d'ailleurs, c'est le premier truc qui figure dans le code civil, le premier critère. Ça doit quand même nous interroger un petit peu, il me semble, quoi. C'est-à-dire que si quelqu'un est français, part à l'étranger, si je pars à l'étranger et que je fais un enfant, parce que je suis française, et que cet enfant ne vient jamais en France, ne parle pas le français, n'a jamais mangé de camembert, etc. Il est français, elle est française. Hein, bon, je ne reviens pas sur les possibilités de déchéance, mais voilà. Alors qu'il y a des gens qui habitent en France, notamment des anciens colonisés qui sont venus au moment de l'indépendance pour travailler en France, et qui habitent ici depuis 50 ans, et qui ne peuvent pas être naturalisés faute de ressources, faute de richesses, parce qu'ils ont travaillé dans des emplois mal payés, parfois non déclarés, et qu'ils arrivent à la fin de leur vie et ils vivent avec une toute petite retraite et le minimum vieillesse. Et que s'ils demandent à l'État français, s'ils font une demande de naturalisation, s'ils arrivent à obtenir un dossier, s'ils font toute la procédure, etc., eh bien on leur dit non, hein, vous n'êtes pas suffisamment inséré, c'est-à-dire vous n'êtes pas indépendant financièrement, vous vivez avec l'allocation solidarité aux personnes âgées, donc c'est non. Voilà. Donc ça, c'est quand même, il faudrait peut-être repenser les contours du groupe politique. Hein. Est-ce que ça a vraiment un sens ce critère de la filiation, hein, il semblerait, enfin, on nous avait dit, on nous a appris à l'école que en 1789, les privilèges de naissance avaient été abolis. Et cette nationalité, aujourd'hui, elle donne un privilège, c'est-à-dire le privilège de venir de manière inconditionnelle sur le territoire français et de vivre en France. Donc c'est quand même un privilège qui est transmis par la filiation. Et ça n'a pas... pourquoi pas, à la limite. Mais à ce moment-là, il faut aussi que ne faut pas que ça serve à fermer la porte à d'autres. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais là, hein, je reviens en arrière. Donc, il y a l'affiliation qui est un critère pour être français. Et la naissance seule en France ne suffit pas. Hein, le droit du sol pur, enfin, niveau 1, si j'ose dire, comme aux États-Unis, ne suffit pas pour naître français. Il faut... tu peux naître français si tu nais sur le territoire français et qu'un de tes parents est lui-même né sur le territoire français. C'est ce qu'on appelle le double droit du sol. Eh bien, ce double droit du sol a été rendu obligatoire justement en 1889, à la fin du 19e, comme je vous le disais tout à l'heure. Les règles ont commencé à être fixées et le double droit du sol est devenu obligatoire. Les types ne pouvaient plus y renoncer pour éviter d'aller faire le service militaire. Eh bien, il a été aussi pensé parce qu'il fallait repeupler l'Algérie et qu'il y avait pas mal d'Italiens, pas mal d'Espagnols qui étaient partis en Algérie, sauf que donc ils faisaient des enfants qui étaient italiens, qui étaient espagnols, et du coup on se retrouvait avec une population, il y avait la population algérienne, les Français musulmans d'Algérie, et il y avait la population française, mais qui était toute petite et qui grossissait pas des masses. Parce que par rapport aux Espagnols et aux Italiens qui commençaient à coloniser, entre guillemets, notre propre colonie. Voilà. Et donc, ce double droit du sol nous a servi à faire en sorte que l'immigré italien, l'immigré espagnol, au bout d'un moment, quand il arrive dans les colonies, c'est dans les textes, hein, dans les discussions à la Chambre, quoi. Donc voilà, une instrumentalisation pour coloniser.
Bon, je voulais quand même mentionner un truc, quand même, mais je ne poserai pas ma question, mais vous mentionnez la constitution montagnarde de 1793, elle stipule que pour devenir français, il faut soit vivre en France depuis un an, avoir épousé une Française, adopter un enfant, acheter une propriété ou nourrir un vieillard. Voilà, juste pour dire comment... Bon, ça n'a pas duré très longtemps, du coup, vous dites que ça a été aboli avec le code napoléonien, mais c'est hallucinant, faut voir
oui.
Comment...
Non, c'est vrai, et c'est quand je dis il faut repenser absolument les critères d'appartenance au groupe politique, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu un moment où les gens ont pensé que t'arrivais. Bon, il y avait toujours le critère de la propriété. T'achètes un immeuble, bon, évidemment, c'est un peu la classe. Bon, t'épouses une Française, ça, c'est... Bon, voilà. Mais quand même, tu nourris un vieillard. Il n'y avait évidemment pas la retraite à l'époque. Et tu adoptes un enfant. Il n'y avait pas l'ASE, la aide sociale à l'enfance. Et puis, avec les guerres, il y avait plein de gens, plein de gamins orphelins dans les rues. Donc, hop, tu prêtes le serment révolutionnaire. T'arrives. Et en fait, t'adhères aussi à un idéal. Et hop, t'es dans la communauté. Et ça, ça a un sens. Le citoyen français. Là, aujourd'hui, cette nationalité qui se transmet par la filiation, elle produit l'identité nationale et les valeurs de la République.
Merci beaucoup. On peut passer à l'autre livre. Alors, Stéphanie Annette Vaucher, vous découpez le bouquin suivant les trois socles de la laïcité, c'est-à-dire la neutralité, la séparation et la garantie des libertés religieuses. Donc, trois notions étant aujourd'hui, selon vous, hypertrophiées et détournées. Donc a priori c'est la neutralité du législateur et de l'État, la séparation de l'État et du coup à l'époque de l'Église, et par là la garantie des libertés religieuses pour les individus. Alors un petit peu d'histoire pour commencer quand même. Si on érige en modèle ou en référence cette fameuse loi de 1905 de séparation de l'État et de l'Église, vous relatez dans le livre que le divorce n'a pas été aussi simple ni si évident que ça. Quels étaient alors à l'époque les débats et comment est-ce qu'elle s'est d'abord théorisée la laïcité en France ?
Bon, je vais pas, moi aussi, enfin, je vais pas remonter au XIIIe siècle parce que comment est-ce que la laïcité s'est d'abord théorisée en France ? Ça commencerait pas vraiment avec la loi de 1905. D'ailleurs, la loi de 1905 n'emploie pas le mot de laïcité, mais c'est un peu le point culminant beaucoup d'années de multiplication de textes, de grandes lois laïques, hein, les grandes lois laïques de la Troisième République. Donc, en gros, à partir de la fin du XIXe siècle, à partir des années 1880, il y a toute une œuvre législative qui va vraiment associer les termes de laïcité et de république. Alors, c'est bien sûr les grandes lois scolaires où on va faire de l'école l'école laïque, gratuite et obligatoire. Mais il y a aussi la laïcisation des cimetières, Il y a la laïcisation des hôpitaux. Enfin, voilà, il y a tout un programme de laïcisation qui, en fait, va culminer avec cette loi de 1905, qui, encore une fois, ne parle pas vraiment de laïcité, mais qui va donc prononcer la séparation des églises et de l'État, c'est-à-dire, effectivement, qu'on peut comprendre vraiment comme une séparation entre l'État et les églises comme institutions, et donc, voilà, l'une ne devant plus avoir... à intervenir, à dire son mot sur les affaires de l'autre. Et cette loi de 1905, en effet, c'est une loi, quand on la lit, en fait, c'est super technique. Et on peut, moi, je dis parfois que c'est un peu un texte, un peu comme un divorce. On règle vraiment des problèmes sur les immeubles, les meubles. Enfin, il s'agit véritablement de désemmêler la puissance publique et... à l'époque, effectivement, l'Église catholique romaine. Mais malgré tout, dans la loi de 1905, même si la plupart des dispositions sont hyper techniques, il y a quand même deux articles qui sont un peu plus théoriques, qui sont les deux premiers. Dans le premier article, la loi dispose que l'État assure la liberté de conscience et surtout que la République garantit le libre exercice du culte. Et dans le second, c'est la phrase très célèbre, l'État ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Et de ça, on va tirer, bien sûr, un principe sur lequel on peut revenir de non-financement public du culte, mais surtout cette idée de neutralité religieuse de l'État. Et donc, du coup, c'est vrai que la loi de 1905, elle est intéressante parce qu'avec le titre, on a cette idée de séparation des églises et de l'État. Et avec ces deux premiers articles, on a l'idée de garantie du libre exercice du culte, d'une part, et de neutralité religieuse de l'État, enfin de la puissance publique, d'autre part. Et il me semble qu'effectivement... C'est probablement la raison pour laquelle cette loi de 1905 apparaît comme étant un peu le berceau du régime moderne de laïcité. Parce que, voilà, on a posé là trois piliers qui, en fait, sur au moins tout le XXe siècle, vont vraiment être les trois piliers ou les trois pôles autour duquel le droit de la laïcité va se structurer. Séparation des églises, garantie du libre exercice du culte et neutralité religieuse. Mais juste... cette idée de neutralité religieuse, c'est probablement celui qui est, sur lequel il est important de revenir au regard des transformations contemporaines du débat. Cette neutralité religieuse dont on parle, qu'on peut comme ça fonder dans la loi de 1905, c'est vraiment la neutralité religieuse de l'État. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est que si l'État est neutre, c'est-à-dire s'il n'y a pas de crucifix, enfin s'il n'y a plus de crucifix dans les écoles, les hôpitaux, les tribunaux, etc., si, en fait, l'action normative de l'État, la législation civile s'affranchit des prescriptions religieuses, hein, avec, par exemple, le rétablissement du divorce en 1884, etc., eh bien, c'est parce que c'est, pense-t-on alors, la garantie de la liberté et de l'égalité pour l'ensemble des individus, qui n'ont pas à craindre que la prise de position de l'État... va entraver ou va les désavantager d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est vraiment, de manière très importante, la neutralité de l'action publique. Et en fait, ce qu'on voit dans la période contemporaine, me semble-t-il, c'est que c'est deux choses. C'est d'abord que dans cet équilibre un peu en tension entre trois pôles, garantie de libre exercice du culte, séparation des églises et de l'État et neutralité religieuse, c'est la neutralité religieuse qui vraiment prend le dessus. C'est-à-dire que, bien souvent d'ailleurs, maintenant, vous voyez, dans le débat public, quand on dit laïcité, on dit neutralité, puis parfois on dit même l'un pour l'autre, ou on parle toujours des deux ensemble, comme s'ils allaient ensemble. Donc, cette idée de neutralité, elle prend vraiment le pas sur les deux autres aspects. Et la deuxième chose qui me semble vraiment importante, c'est que, bien souvent, quand on parle de cette laïcité un peu rabattue sur l'idée de neutralité, on ne parle plus, en fait, de neutralité religieuse de l'action publique, mais on parle de neutralité religieuse des individus, des personnes privées. Et ça, c'est vraiment un moment de grand basculement, quoi. Ce n'est pas du tout la même chose de parler de neutralité de l'action publique ou de parler de neutralité des individus. Donc ça, c'est des changements importants.
Alors, pour rebondir sur ce que vous dites, vous écrivez que c'est en partie à la suite de l'affaire dite du foulard de Creil en 1989, qu'un groupe d'intellectuels, comprenant alors entre autres Elisabeth Badinter et Alain Finkielkraut, ils imposent une nouvelle vision donc, de la laïcité, et comme vous le dites, qui du coup insiste sur la neutralité des individus et non plus de l'État. Est-ce que du coup vous pouvez revenir peut-être sur ce point de bascule, ainsi que du coup la loi de 2004?
Ouais, effectivement, je crois que donc 1989, c'est un moment effectivement très important de bascule. Donc il y a effectivement cette affaire qui aurait pu rester une petite affaire très locale, puisqu'il y a trois jeunes filles qui sont exclues du collège Gabriel Avez à Creil dans l'Oise. Bon, évidemment, c'est pas à chaque fois qu'il y a une mesure disciplinaire qui est prise à l'encontre de trois élèves que ça devient une affaire nationale, mais là ça devient une affaire nationale, notamment à cause de la mobilisation de ce collectif d'intellectuels qui va vraiment crier, c'est dans le texte qu'il publie à ce moment-là, au Munich de l'école républicaine, si ces jeunes filles étaient réintégrées, et qui vont en réalité occuper le devant du débat public sur les questions de laïcité pendant 30 ans. Quoi. Pourquoi est-ce que c'est un point de bascule ? Parce que l'idée qu'ils promeuvent, c'est vraiment cette idée que ça va vraiment commencer par l'école. Donc, à l'école, la laïcité doit s'entendre comme étant une règle de neutralité entendue dans son sens le plus absolu, c'est-à-dire un peu comme une sorte d'asepsie, c'est-à-dire qu'il doit vraiment... L'école doit être un espace expurgé de toute manifestation religieuse. Pendant longtemps, leur mobilisation, c'est une mobilisation politique. Politique en ce sens qu'elle ne se traduit pas du tout dans le droit. C'est-à-dire le droit ne change pas. Le droit, c'est toujours, si on peut parler de neutralité en corrélation au principe de laïcité, c'est la neutralité de l'action publique. Donc en fait, les autorités juridictionnelles, qui sont de plus en plus mobilisés, parce que comme ces intellectuels agitent le débat, il y a une augmentation du contentieux. Mais les juges disent, répètent, re-répètent, que le principe de laïcité ne fait pas obstacle à ce que les élèves manifestent leurs croyances religieuses, y compris à l'école. Donc, c'est un moment d'évolution du débat politique, mais pendant toutes les années 90... et le début des années 2000, il n'y a pas en fait de traduction juridique de ces mobilisations vers ce nouveau sens de la laïcité et de la neutralité imposée aux individus. Sauf que cette mobilisation politique, elle va finir par être couronnée de succès avec en effet le vote de la loi du 15 mars 2004 qui interdit, comme vous le savez, dans les écoles, les collèges et les lycées, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement leurs croyances religieuses. Ça, c'est la deuxième bascule qui est d'une nature un peu différente parce que là, ce n'est pas une bascule dans le débat politique sur la laïcité, mais c'est vraiment un changement juridique. Changement juridique, d'abord et avant tout, évidemment, pour les élèves des écoles, collèges et lycées. Mais changement juridique, c'est ce que j'essaye de suggérer, en tout cas dans le livre, en fait, beaucoup plus profond, parce que ça va changer le sens qu'on prête à la laïcité. C'est-à-dire que, justement, c'est à partir de là qu'on va se mettre à déduire du principe de laïcité des obligations de neutralité religieuse qui pèsent sur des personnes privées. Et à partir de 2004, ce qu'on voit, c'est une multiplicité d'entrepreneurs politiques qui vont essayer de répliquer cette logique dans d'autres espaces. Donc on va se mettre à dire, c'est pas seulement les élèves, mais c'est aussi les parents accompagnateurs, et puis c'est pas seulement les élèves, mais c'est en fait toute personne qui pénètre dans un établissement scolaire. Donc les stagiaires Greta qui sont en formation professionnelle dans des lycées publics. Puis après on va se dire, mais c'est pas seulement dans l'école et autour de l'école, mais c'est peut-être aussi au travail. Et puis on va avoir des évolutions jurisprudentielles, puis législatives, pour étendre les configurations dans lesquelles il est possible d'exiger des salariés qu'ils se conforment à une obligation de neutralité convictionnelle. Puis on va avoir le débat sur l'espace public. Est-ce que finalement, il ne faut pas interdire ou en tout cas réglementer le port de tenues religieuses dans l'espace public ? Donc on va avoir la loi de 2010 sur l'interdiction du niqab, mais on va avoir aussi toutes les itérations autres de type la vague d'arrêtés anti-burkini sur les plages en 2016, les affaires de burkini dans les piscines, etc. Donc en fait, 89, c'est la bascule politique, 2004, c'est la bascule juridique, et qui, encore une fois, va très vite produire des effets bien au-delà de l'école, en fait.
Vous revenez dans un bouquin écrit avec Vincent Valentin sur l'affaire dite de Baby Lou. Alors, c'était le nom d'une crèche dans les Yvelines qui a été le théâtre d'un long conflit entre sa direction et une puéricultrice. Alors, pour résumer très rapidement, le souhait de cette puéricultrice de venir travailler voilée s'est confronté au règlement intérieur de la crèche, obligeant à la neutralité religieuse. Et refusant cette règle, elle a été licenciée, licenciement que la puéricultrice a porté devant la justice. Et après un assez long processus judiciaire, enfin un truc comme 5 ans je crois, sur lequel vous pouvez peut-être revenir, la Cour de cassation considère en 2014 que le licenciement était légal au motif que l'expression de croyances religieuses pourrait heurter la liberté de conscience des enfants. Enfin pardon, moi je souligne ça parce que ça me paraît complètement hallucinant. En quoi, c'est le sous-titre de votre livre, cette affaire incarne pour vous le tournant vers une nouvelle laïcité ?
Alors moi, l'expression de nouvelle laïcité que j'emploie avec Vincent Valentin dans le livre sur Babylou, mais que j'emploie aussi à propos de la question scolaire, j'utilise cette expression pour signaler le fait qu'on ne parle pas du tout de la même chose quand on parle d'une laïcité qui génère la neutralité de l'action publique ou quand on parle de laïcité qui fait peser des obligations sur les individus. L'affaire Babylou, elle est vraiment très importante parce que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'au moment où l'affaire se noue, c'est-à-dire au moment où il y a le contentieux, le conflit que vous avez rappelé entre la puéricultrice et la direction de la crèche, crèche qui est une entreprise privée, enfin c'est pas une crèche publique, il n'y a pas de service public, etc. Bien, à ce moment-là, le droit du travail est assez clair. Depuis notamment les lois Auroux, on considère que bon, bah, le contrat de travail est certes une relation de subordination, comme on dit en droit, mais que ce n'est pas parce que le salarié signe un contrat de travail que pour autant, il ne jouit pas de ses droits fondamentaux. Et donc notamment, un des aspects des lois Auroux, c'est de dire que même dans le contrat de travail, donc même sur le lieu de travail, le salarié conserve des droits fondamentaux comme la liberté d'expression, y compris religieuse, etc. Et il y a simplement une disposition dans le Code du travail qui permet à l'employeur de restreindre ses libertés fondamentales du salarié si et seulement si c'est justifié par le poste de travail spécifique. D'accord ? Donc on a des affaires connues sur le fait que, en effet, la vendeuse de prêt-à-porter qui porte le niqab, c'est moyen, ou que le boucher qui refuse de manipuler certaines viandes, ça peut aussi poser problème par rapport à la description précise de ce job, de ce poste de travail singulier. Ce qui se joue avec l'affaire Babylou, c'est le début de l'extension des cas dans lesquels on va pouvoir requérir la neutralité religieuse des salariés, puisque, en effet, après moult rebondissements judiciaires, le licenciement de la puéricultrice qui refuse de retirer son voile alors que l'entreprise a désormais inscrit dans son règlement intérieur une clause de neutralité religieuse des personnels, eh bien, ce licenciement est validé au motif que vous avez dit. Enfin, il y a l'idée que ça heurte la sensibilité des jeunes enfants. Il y a aussi, en fait, l'arrêt de la Cour de cassation est vraiment un arrêt d'espèce, pas du tout un arrêt de principe, puisque c'est aussi rapporté à la petite taille de l'entreprise, comme si, en fait, la violation des droits fondamentaux de peu de personnes était moins grave que la violation des droits fondamentaux de beaucoup de personnes. Enfin, je ne sais pas très bien comment comprendre cette référence. Mais ce qui est très important, c'est que là encore, enfin, vous voyez, c'est à chaque fois un peu des points de bascule. Cette affaire Babylou, c'est vraiment, on peut parler d'une affaire au sens sociologique du terme, parce qu'elle va susciter la création véritablement d'une coalition très, très importante. Il faut quand même se figurer que, si je ne me trompe pas, était présent au Conseil des Prud'hommes de Mantes-la-Jolie le Premier ministre, la présidente de la HALDE, Elisabeth Badinter, etc. Ce n'est pas tous les jours quand même qu'il y a ce type d'aréopage au Conseil des Prud'hommes. Donc il y a vraiment une mobilisation politique autour de cette idée de la neutralité religieuse au travail. Et de fait, quelques années plus tard, dans la loi El Khomri, la loi travail qui a suscité toutes les mobilisations sociales dont on se souvient, il y a une disposition qui, à l'époque, n'a pas tellement été centrale, justement, dans les mobilisations, qui, en fait, généralise un peu cette question, puisque la loi El Khomri permet désormais aux entreprises d'insérer dans le règlement intérieur une clause de neutralité convictionnelle des personnels. J'insiste sur convictionnelle parce que c'est plus large que religieux. C'est-à-dire que c'est neutralité religieuse, philosophique et politique. D'accord ? Et donc, c'est évidemment quelque chose de très important. Ce n'est pas une obligation qui est faite aux entreprises, hein, bien sûr. Mais malgré tout, vous voyez bien que dans l'état antérieur du droit, disons avant Babylou, on peut exiger la neutralité religieuse seulement quand l'employeur peut vraiment démontrer qu'il y a une incompatibilité entre l'expression de la religion et le poste de travail spécifique. Alors que là, désormais, ça devient un peu comme ça peut devenir comme la loi interne générale de l'entreprise.
Alors, on va peut-être revenir sur l'actualité après, on aura l'occasion de deviser, je pense, sur ces deux dernières semaines notamment. Mais j'avais une dernière question juste pour vous. Stéphanie Annette Vaucher sur la question de l'abaya, donc qui a posé une complexe question juridique, en fait, des vêtements religieux par destination. Qu'est-ce que ça peut bien être? Quelle est la jurisprudence à ce sujet? On a pu entendre aussi que des élèves retirant leur voile devant le collège avant d'y rentrer n'étaient pas dans une configuration laïque. Alors de quoi parle-t-on dans ces deux cas? Alors je vous ai entendu le dire à la radio.
Absolument.
En fait. Je ne sors pas de ma poche.
J'ai dit ça. c'est vraiment très très compliqué comme question. Ça paraît simple, mais en fait c'est très très compliqué. En fait, donc la loi de 2004. La loi d'interdiction des signes religieux à l'école. Bon, on va peut-être pas célébrer, mais commémorer ces 20 ans dans quelques semaines. Et donc, on a un peu de recul maintenant. Enfin, ça fait, on a 20 ans de jurisprudence. Et ce qu'on comprend, c'est qu'en réalité, c'est une loi qui fait beaucoup plus que simplement interdire les signes religieux. En fait, elle pose deux types d'interdictions. Elle interdit, d'une part, les signes qui, en eux-mêmes, expriment une appartenance religieuse. Et ces signes-là, ils sont définis par la circulaire d'interprétation du texte comme étant le voile, la kippa et la croix de grande taille. Par ailleurs, l'interdiction posée par la loi vise aussi les signes qui n'ont pas en eux-mêmes de signification religieuse, mais qui acquièrent ce caractère en raison du comportement de l'élève. Et donc, c'est en raison du comportement de l'élève qu'ont pu être interdits par les autorités scolaires, suivis par le juge, des bandanas, des jupes longues, des bonnets en laine, dont il est difficile de soutenir qu'ils ont une signification religieuse, mais qui acquièrent une signification religieuse à raison du comportement de l'élève. Alors ce comportement de l'élève, qu'est-ce que c'est? Quand on lit la jurisprudence, en général, le comportement de l'élève, c'est son intransigeance. C'est-à-dire qu'en gros, il porte un signe qui est perçu par les autorités scolaires comme contrevenant à la loi de 2004, on lui demande de l'enlever, il refuse, alors je dis il, en vérité c'est elle, hein, en général, et donc intransigeance. Voilà. Ce qu'ouvre la circulaire Attal du 31 août 2023 qui interdit l'abaya et le camis, c'est quelque chose qu'on perçoit. Enfin, qu'on intuite, je ne sais pas si c'est vraiment un mot, en regardant la jurisprudence, mais qu'on peine à montrer vraiment clairement, mais qui se révèle vraiment avec cette question de l'abaya, c'est qu'en fait, le comportement de l'élève, c'est la porte ouverte à l'expression incontrôlée de préjugés, de représentations culturalistes, etc. Parce que, évidemment, l'abaya, bah, y a pas de définition de l'abaya. Bon, il y a eu des recours qui permettent où le juge a accepté la définition donnée par le ministère de l'Éducation nationale qui m'échappe un peu à l'instant dans son détail, mais c'est en gros robe longue, manche longue, quoi. Mais il est évident que personne, ni le ministre, ni le juge, ni quiconque n'a pensé interdire toutes les robes longues à manches longues. Évidemment que si elle est soyeuse, bariolée, décolletée, elle ne sera pas considérée comme étant une abaya. Interdite en ce sens. Et donc, en réalité, on voit bien que c'est vraiment entre la jurisprudence qu'on avait déjà sur le fait que le comportement de l'élève peut permettre de considérer que le signe ou la tenue contrevient à la loi de 2004, plus l'aggravation d'une certaine manière provoquée par la circulaire qui interdit l'abaya et le camis, qui sont des tenues dont les autorités religieuses nous disent qu'elles ne sont pas religieuses ou qu'elles ne sont pas prescrites par la religion et dont on n'a par ailleurs pas de définition physique, quoi. C'est vraiment la porte ouverte à des appréciations incontrôlées, quoi.
Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle?
Est-ce que ça doit figurer dans le contrat de travail ou est-ce que c'est à l'appréciation de travailleurs et travailleuses de regarder dans la politique de l'entreprise, du coup?
Non, c'est vraiment dans le règlement intérieur de l'entreprise que c'est possible.
Aucune mention dans le contrat de travail.
Non, je pense que ça serait illégal dans le contrat de travail. Enfin, bon, en tout cas, c'est dans le règlement intérieur que c'est possible de mettre une clause de neutralité convictionnelle.
Et moi, je voudrais rajouter que la dernière fois, une des fois où je suis venue à Toulouse, avec Laure, là, à la cour d'appel de Toulouse, il y avait un congrès du syndicat de la magistrature, il y a une énorme croix Enfin, t'es assis sur l'estrade là comme ça, à la place des juges, et dans le fond de la salle, c'est un énorme crucifix. Mais c'est, je veux dire, là pour le coup, la grande croix là, c'est fait, je sais pas, 2 mètres. Quoi. C'est.
Il y a quelques bâtiments judiciaires où il y a aussi des peintures et des grandes croix sculptées. J'ai jamais vu, mais j'ai déjà vu des.
Ouais, sur la laïcité, en fait, vous parlez de mobilisation politique au moment de 2004. Est-ce que l'islamophobie d'État qui commence, est-ce que c'est pas... D'abord, c'est quels sont, quand vous parlez de cette mobilisation politique qui milite, qui c'est quoi, pourquoi? Et est-ce que c'est pas justement à partir de 2001, les attentats de New York, où l'Occident commence à rentrer en guerre contre ce qu'on appelle l'islamisme politique ou le terrorisme islamique, bon bref, tous les termes employés pour désigner cette guerre et ensuite ce qui a engendré quand même la destruction de l'Irak, etc. Donc j'aimerais savoir en 2004, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, enfin, moi, pour moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ce qui s'est passé. Et voilà, et après, juste pourquoi vous n'employez pas le terme d'islamophobie d'État? Et qu'en fait, parce qu'il s'agit de ça, je crois, depuis. Et que ça ne s'arrête pas.
Avant de repasser le micro, j'avais envie, parce que moi j'avais très envie de poser cette question. Je pense qu'il faut remonter à 1989. Je suis persuadée qu'il y a une. 89, c'est Rocard, je vous rappelle. Et les chefs de file du combat, qui concernent en effet des femmes, des filles voilées, je pense qu'il y a une responsabilité de la gauche qui ne cesse de m'interpeller, moi, sur cette dérive ou cette apparition, cette dérive de la conception de la laïcité qui va amener à la nouvelle laïcité. Je pense que, historiquement, c'est vraiment la gauche, au nom d'un combat souvent féministe sur l'égalité homme-femme, qui a commencé à ouvrir la boîte de Pandore. Et depuis, bon, se sont greffés effectivement les attentats, et ce qui est absolument terrible, c'est de voir, mais ça sera une question qu'on pourra vous poser à toutes les deux, c'est de voir le peu de résistance finalement des principes fondamentaux du droit et le recul progressif de toutes les juridictions, même ce qui est étonnant des juridictions européennes. Bon, vous me direz, la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, quand on n'est pas dans le marché, elle s'en fout un peu, mais quand même. Et surtout la Cour européenne des droits de l'homme, qui avait une définition de la liberté religieuse extrêmement, extrêmement exigeante. Donc, moi, je m'associe, mais en vous demandant de revenir à 89, parce que je crois qu'il ne faut pas tout de suite arriver avec les attentats. L'affaire a commencé bien avant les attentats.
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Hein, les deux thèmes que vous évoquez, c'est-à-dire la manière dont, effectivement, par exemple, cette question de l'égalité entre les sexes va devenir une des composantes de la laïcité. Bon, sur le plan historique, c'est presque risible, parce qu'il n'y a évidemment pas, de bien loin de là, d'association historique entre le combat laïque et le combat de l'égalité entre les sexes. Donc, évidemment, c'est de l'ordre de l'instrumentalisation, ou en tout cas de la rencontre bien opportune, disons, entre ces deux principes. Donc ça, c'est certain que ça a causé un tort très grand, et évidemment que cette manière dont la laïcité, une fois qu'elle rencontre ce principe d'égalité entre les sexes, va venir conforter un tournant très... autoritaire, enfin hétéronome en tout cas, de la laïcité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir imposer des choses aux femmes au nom de l'égalité. Alors c'est toujours une opération assez magique que celle par laquelle l'égalité est imposée au sujet de droit. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui joue un rôle très important et qui en effet trouve son origine déjà dans les pratiques, enfin le rapport colonial, le rapport en situation coloniale à la religion. Après, évidemment, la question sécuritaire, elle joue évidemment un rôle tout à fait considérable. Et on pourrait certainement trouver d'autres causes. Enfin, je veux dire, pour qu'il y ait une telle inversion de sens ou subversion de sens, il est bien évident que c'est pas voilà des petites entreprises politiques ponctuelles quoi. Il y a vraiment une multiplicité de facteurs qui convergent pour emporter ce succès de la loi de 2004 et de tout ce qui va s'en suivre. Donc je suis tout à fait, enfin je suis tout à fait d'accord que ce sont des causes extrêmement importantes. Non, pas exclusivement français. La rhétorique de l'égalité entre les sexes, on la rencontre ailleurs. Pas pour la laïcité, parce que la laïcité, pour le coup, c'est un vocable pas exclusivement français, mais enfin, disons qu'on rencontre assez peu dans beaucoup de pays. Mais en revanche, l'idée de dire que on va pouvoir réglementer le port de tenues, notamment religieuses, notamment des femmes, au nom de neutralité et égalité, ça c'est quelque chose qu'on rencontre tout à fait ailleurs, de la même manière que l'islamophobie, c'est pas une spécificité française non plus, hein. Je veux dire, on peut bien sûr documenter les trajectoires spécifiques et la manière dont, voilà, la trajectoire peut-être française est spécifique, mais enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre tout à fait ailleurs, hein.
Merci à vous deux pour cette première salve de réactions, de commentaires. Une petite question pour Stéphanie. Vous avez évoqué le concept de affaire d'un point de vue sociologique. Je me suis demandé en fait si vous aviez eu l'occasion de réfléchir à quels ont été les ingrédients, par exemple au moment de l'affaire de Creil, qui ont transformé cette affaire que, comme vous l'avez rappelé, aurait pu rester en fait une affaire tout à fait locale, mais qui s'est retrouvée sur le devant de la scène pendant plusieurs années. Je pose la question de manière peut-être un peu stratégique, parce que je suis sûre qu'on est plusieurs à avoir envie souvent de faire exploser une affaire autour d'autres situations, d'abus de pouvoir, de violences policières, etc. Donc ce serait, je trouve intéressant de réfléchir à qu'est-ce qui fait qu'une situation concrète qui a tout pour rester une affaire d'intérêt local, en fait, qui pourrait faire la une de la Dépêche, mais pas du Monde, une affaire de ce type. Et ensuite, un commentaire qui m'a inspiré la première partie de la présentation de Karine. Je te remercie d'avoir rappelé en fait à quel point l'histoire qu'entretient depuis très longtemps l'État français à l'immigration est une histoire très liée à un utilitarisme débridé en fait de la main d'œuvre de l'étranger comme main d'œuvre. Et je trouve en fait que cette question-là, elle est vraiment toujours et encore d'actualité. Et en fait, ce que je trouve magique au sens très ironique du terme, c'est que depuis récemment, je dirais avec une vitesse peut-être accélérée depuis Sarkozy, on présente en fait des mesures qui sont de façon idéale typique en fait utilitariste, comme par exemple la régularisation des travailleurs sans papiers, comme un exemple en fait d'humanisme et qui sont présentées en fait comme des mesures limite censées faire du pied en fait à la gauche. Et je trouve que c'est quelque chose en fait moi qui me parle d'une droitisation extrême en fait de la réflexion publique en fait autour de l'immigration en France, et qui est un piège idéologique en fait, je trouve très très fort, parce que critiquer en fait cette posture là fait que la personne qui critique peut s'exposer en fait à son tour à la critique d'être contre la régularisation, ce qui est complètement tordu en fait. Mais bref, qu'est-ce que tu en penses?
Oui, cette disposition qui était la disposition, puisque le projet de loi immigration et intégration, je crois que c'est comme ça, un truc comme ça, pour l'immigration, contre l'immigration et pour l'intégration, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, à l'origine, le volet humaniste, puisque en même temps, on va précariser énormément le séjour des étrangers sur le territoire, et c'est quand même une loi historique, hein, malheureusement, elle s'inscrit évidemment dans une trajectoire. Quand on a parlé du petit bouquin avec Chloé il y a un certain temps, elle me disait oh là là, c'était il y a un, est-ce que ça, tu pourrais pas ouais, quand est-ce que tu penses que ça va sortir, parce que là il va bientôt y avoir la loi, etc. Je lui disais t'inquiète pas, tous les deux ans il y a une loi, donc on est toujours dans l'actualité, il y a toujours des lois, mais celle-là elle est particulièrement grave parce qu'elle touche beaucoup beaucoup de domaines, même telle qu'elle a été amputée par le Conseil constitutionnel. Et donc, à côté de tout ce qui est ultra sécuritaire et ultra terrible pour les personnes étrangères, il était censé avoir ce volet de régularisation pour les personnes qui travaillent dans les métiers en tension. Mais alors, je n'ai pas regardé la dernière version, parce qu'au bout d'un moment, moi, j'ai lâché, j'attendais de voir le texte. Mais c'est vrai que ça mettait tout le monde un peu mal à l'aise, parce que les syndicats disaient « ouais, c'est peut-être pas mal », certains disaient « ouais ». Bon, alors, le nœud du problème, c'est à quelles conditions les personnes vont être régularisées. Et dans le texte initial, Darmanin disait on va faire échapper la personne étrangère à l'arbitraire du patron. Parce qu'aujourd'hui, pour être régularisé par le travail, c'est l'enfer. Donc, c'est intéressant quand même. En 1968, je ne sais pas pourquoi on a cette date-là particulièrement dans les statistiques, mais en 1968, 80% des gens qui obtenaient une carte de séjour, donc sur 100 étrangers, 80 obtenaient leur carte de séjour par régularisation, par le travail. C'est-à-dire les gens arrivaient, les frontières n'étaient pas celles qu'elles sont aujourd'hui, les gens arrivaient, parfois avec un visa touriste, parfois sans visa, machin, ils travaillaient, parce qu'il y avait du boulot, ils travaillaient, et après ils allaient à la préfecture et ils demandaient leur régularisation. Alors, en fonction de leur couleur de peau, ça prenait plus ou moins de temps. Il y a cette échelle des désirabilités qui a été très bien montrée par Alexis Spire. Donc voilà, si tu étais italien, espagnol, machin, ça allait plus vite que si c'était marocain, tunisien, etc. Bon. Mais tu finissais toujours par être régularisé. La question, c'était combien de temps ça allait prendre. Bon, tu vivais dans des conditions difficiles, tout ça. C'est pas pour dire que c'était le bon... Je vais pas vous faire le coup du bon vieux temps. Mais voilà, la grande majorité des gens obtenaient leur carte par régularisation. Aujourd'hui, la régularisation, c'est-à-dire l'admission exceptionnelle au séjour, comme on dit, c'est une toute petite partie... Aujourd'hui, c'est simple. Les avocates militantes que je vois pourraient le dire bien mieux que moi. La difficulté, c'est même d'obtenir un rendez-vous en préfecture déposer un dossier de régularisation. C'est-à-dire, vous savez, aujourd'hui, les préfectures ne sont plus accessibles aux étrangers physiquement. C'est la dématérialisation. Et donc, tu vas sur Internet et tu demandes un rendez-vous pour tel truc. Tu vois. Je vois pour un titre de séjour familial. Voilà. Et il y a des préfectures où il n'y a même pas le rendez-vous au titre de la régularisation. Donc, bon, déjà, c'est mort. Donc, il y a déjà ce problème, mais il y a aussi aujourd'hui ta procédure, la procédure de la personne étrangère, elle est à la merci du patron. Il faut vraiment que le patron ou la patronne mette du sien, y aille, demande, remplisse les papiers, paye, etc. Et donc Darmanin disait oui, avec notre nouvelle procédure, on va permettre aux étrangers et aux étrangères qui veulent être régularisés parce qu'ils travaillent dans les métiers en tension d'être plus autonomes dans leur démarche et de moins dépendre du patron. Bon, en fait, c'était pas vrai. Tel que le processus, tel que dans le projet initial, ça ne faisait pas du tout échapper la personne à son patron. Et aujourd'hui, dans la version qui est entrée en vigueur, c'est zéro. C'est-à-dire qu'il y a l'arbitraire de la préfecture qui est exactement celui qui était avant. C'est-à-dire, même si tu remplis tous les documents, de toute façon, c'est l'arbitraire de la préfecture. Donc, il n'y a pas de changement en termes de droit des travailleurs et des travailleuses à obtenir une régularisation parce qu'ils travailleraient dans un métier en tension. Mais ce qui est hyper piégeux, parce que qu'est-ce que c'est qu'un métier en tension et pourquoi ceux qui travaillent pas travaillent dans des métiers pas en tension, dans des métiers un peu lâches, pourquoi ils ne seraient pas régularisés. Bon, voilà, évidemment, celles et ceux qui militent pour la liberté d'installation et de circulation de toutes et tous, ils ne vont pas se raccrocher à ce critère-là. Et puis, on sait très bien qu'un métier en tension hier ne le sera peut-être pas demain, etc. Et puis, comme tu le dis, de toute façon, c'est cette idée que si tu es là et que tu occupes un boulot, qu'est-ce que ça veut dire que personne d'autre ne veut faire? Alors là, éventuellement, on te donnera accès à un titre de séjour. Donc, évidemment, c'est piégeux. C'est vraiment ce qu'on peut qualifier d'une fausse bonne idée, quoi.
Ouais, peut-être juste rapidement sur la question de l'affaire, on avait des travaux qui donnent un peu la recette sur comment transformer quelque chose en affaire nationale. Je crois qu'on serait un certain nombre à les avoir vraiment utilisés. Voilà, sur l'affaire de 89 en particulier, il y a quand même quelques travaux qui se sont vraiment intéressés à cette question. J'ai en tête un papier de Valérie Amirault, par exemple. Enfin voilà, il y a vraiment des travaux, mais pas du tout dans le... dans le sens de voilà comment on peut faire, parce que voilà, il y a une dimension de contingence aussi qui est quand même très très importante. Je veux dire, ça renvoie à ce qu'on disait avant, c'est la rencontre, la convergence progressive de toute une série d'intérêts qui peuvent n'avoir aucun rapport direct les uns avec les autres. Et bon, c'est difficile à maîtriser, quoi.
Juste pour rebondir, je me souviens juste d'un ouvrage que j'avais lu à une dizaine d'années à la fac de Thomas Deltombe sur le traitement médiatique de l'islamophobie. Et il revenait, alors il repartait de... Je crois quand même, ouais, bien des années 70 jusqu'à alors, bah, 2010, ça devait être la sortie du bouquin. Et donc, il analysait quand même beaucoup les contextes. Et je sais qu'il revenait beaucoup sur 89, sur l'Iran, sur le côté à la fois étranger de l'intérieur, étranger de l'extérieur. Voilà, j'ai plus tout en tête parce que ça commence à dater, mais je me souviens qu'il m'avait beaucoup... Il analysait aussi tous les journaux. Bon, c'était beaucoup Le Point, Marianne, etc. Mais vraiment du niveau médiatique, mais aussi du coup sociétal. Voilà. Donc je pense qu'il peut y avoir, je ne sais pas s'il y a des recettes, des ingrédients, mais c'est juste, bien analysé.
Et juste depuis, il y a eu un autre livre vraiment majeur, qui est le livre d'Abdelali Hajat et Marwan Mohamed, ouais. Qui s'appelle... Voilà, et qui est sur la fabrique de l'islamophobie par les élites. Et là, ça complète, c'est pas seulement médiatique, mais c'est aussi les lieux institutionnels, le Haut Conseil à l'intégration, etc. Quels sont les lieux qui vont... devenir en fait les arènes de tous ces tournants qu'on documente depuis tout à l'heure.
Alors bonjour, j'aurais une question, c'est comment on pourrait faire éventuellement pour équilibrer le triangle de sens de la laïcité ? Question complexe.
Ouais, bon, on dit depuis tout à l'heure qu'il est quand même assez déformé par toute une série de mobilisation, d'influence politique, etc. Donc, bon, je pense que déjà la réponse, elle est politique. Bon. Et si, voilà, moi, il me semble que rappeler l'importance des deux autres pointes du triangle, la liberté d'exercice du culte et la neutralité de l'État, c'est quand même quelque chose de très important. Alors, je vais juste donner un exemple. Hein. Pendant très longtemps, quand on parle de laïcité, dans le débat public, alors pendant très longtemps, je veux dire l'essentiel du XXe siècle, enfin une large partie du XXe siècle, le problème public que permet de saisir le mot de laïcité, c'est ce qu'on a longtemps appelé la guerre scolaire ou la question scolaire. C'est pendant très longtemps la question de l'existence et du statut de l'enseignement privé et de la question de la légitimité du financement public de l'enseignement privé, notamment à partir de la loi Debré de 1959 qui donne beaucoup d'argent aux établissements privés. Et par exemple, voilà, dans les années 60, 70, 80, enfin, vraiment, quand on parle de laïcité, on parle vraiment de la question scolaire. D'ailleurs, en 84, donc la gauche est au pouvoir... un des grands projets qui va être porté par le gouvernement Mauroy, c'est une tentative de revenir sur la loi Debré, c'est-à-dire de dire en fait, vous êtes des établissements privés, vous recevez beaucoup d'argent public au titre de votre association ou service public de l'éducation nationale, on va vous réintégrer dans le service public, mais donc vous allez devenir des établissements laïcs. C'était le projet de créer un SPULEN, le service public unifié et laïque de l'enseignement de l'éducation nationale. Ce projet s'est heurté à une mobilisation des défenseurs de l'école privée, qu'ils ont appelé à cette époque l'école libre. Et donc ça, c'est vraiment la grande défaite. C'est le moment où vraiment la gauche laïque essaye de revenir sur la loi Debré de 1959, et c'est un échec. Donc ça, c'est 84. 89, c'est l'affaire de Creil. Et alors, ce qui est intéressant dans le fait de rappeler ces événements dans leur chronologie, c'est de comprendre que, en fait... La gauche laïque qui avait essuyé un revers avec la loi Debré, qui essuie un revers avec l'échec du SPULEN, va, en fait, il y a un truc qui se passe, parce que jusque-là, quand on parle de laïcité, on parle de cette question de l'enseignement. Et après 89, quand on va parler de laïcité, le problème public qui va permettre de saisir le mot laïcité, c'est plus du tout ça. C'est plus jamais ça, c'est le port de signes religieux, c'est le port du voile, c'est l'islam. C'est vraiment, et donc, il y a vraiment une bascule ici, et c'est un peu dans ce type d'opération, par exemple, qu'on va voir la neutralité, comme on en parlait tout à l'heure, prendre complètement le dessus dans les débats sur la laïcité, et on oublie les enjeux d'égalité, de liberté, etc. Donc, je pense, par exemple, qu'une des manières de chercher à rééquilibrer le triangle, c'est de dire que finalement, la question laïque, c'est peut-être pas toujours, tout le temps et partout le voile, mais c'est peut-être le statut de l'enseignement privé.
Merci beaucoup.
Oui, mais bon, vous m'accorderez que c'est assez récent. Hein, le sujet avait été enterré pendant fort longtemps. Et là, effectivement, janvier 2024, c'est la renaissance de la question de l'école privée.
Moi, j'ai une question. Est-ce qu'entre la laïcité et le racisme, il y a un lien ?
Moi, je pourrais prolonger la question, parce que c'est un truc votre question, madame, si vous me permettez, c'est un petit truc que je me pose comme question, parce que pour revenir sur le tout début, la collection de ces petits mots, je me dis, est-ce que, mais c'est un peu une fausse question, mais peut-être un petit côté rhétorique, mais est-ce que la laïcité, on veut vraiment encore la sauver, je veux dire, est-ce que, tu vois, est-ce que, voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain, est-ce qu'on peut encore la récupérer? Ça va un peu dans votre sens, madame, c'est un peu provocateur, mais c'est, enfin, voilà.
Oui, bah, si on veut jouer sur le titre de la collection, voilà, il y a des mots, et puis comme je le disais, je crois, au début, la signification qui est prêtée aux mots évolue, il y a les mots et les usages qui en sont faits. Donc on est, enfin, clairement, moi ça fait un certain temps, je suis désolée, je vois pas la personne qui a posé la question, voilà, merci. Ça fait un certain temps que je travaille sur cette question, et effectivement, moi je vais vous dire, j'ai commencé à travailler sur la laïcité, je m'en rappelle très bien, en 2008, quand on commençait les débats relatifs à ce qui allait devenir la loi d'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public, c'est-à-dire la loi anti-burqa, anti-niqab, parce que les promoteurs du texte, enfin ce qui allait devenir ce texte, disaient on va pas faire une loi d'interdiction, on va faire une loi d'émancipation. Voilà. Alors effectivement, moi, l'émancipation par l'interdiction, ça m'interroge. Et effectivement, à partir de là, travaillant sur la manière dont on veut émanciper des gens en leur interdisant de faire des choses, et en travaillant sur cette question à partir de la question de la laïcité, moi, ce que je vois, c'est que les personnes qu'on veut soi-disant émanciper en leur interdisant des choses, bah, c'est quand même vraiment, vraiment beaucoup des femmes musulmanes. Et donc, effectivement, c'est assez difficile aujourd'hui. Enfin, je vois pas très bien, à vrai dire, comment ce serait possible de nier la corrélation qui existe entre les usages de la laïcité, beaucoup d'usages politiques, et la signification aussi que ça acquiert dans le droit, avec des formes de discrimination. C'est assez difficile de nier cet élément-là. Après, de là à savoir s'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, enfin, moi, c'est pas du tout, je me pose pas du tout les questions dans ces termes. Voilà, là, je pense que c'est très important de documenter les usages contemporains, la transformation, les torsions de sens, etc. Bon, de là à prononcer de manière définitive qu'il y a plus rien à sauver dans la variété des projets laïcs qui ont existé au fil du temps, je crois que ça serait... Enfin, moi, c'est pas ma perspective.
Mais est-ce que l'État n'ayant pas changé... Parce que le concept de laïcité, c'est quand même assez... tel qu'il est né, je suis pas une spécialiste comme toi, mais tel qu'il est apparu donc, dans cette fin du 19e, est-ce que le contexte n'a pas tellement changé que finalement, il n'est plus opératoire et qu'on pourrait se contenter de respect du droit à exercer sa religion, liberté individuelle, etc. Est-ce que les questions qui se sont posées au 19e et qui ont conduit à l'émergence de ce concept se posent encore dans des termes qui lui donnent aujourd'hui, qui fait qu'on en a encore vraiment besoin aujourd'hui. Mais c'est, voilà, je sais pas.
Et pour rebondir un petit peu sur votre question sur les liens entre laïcité et racisme, ouais, c'est que en fait, on a l'impression maintenant que du coup, les vêtements ostensiblement religieux sont du prosélytisme et que les étrangers sont de fait séparatistes. Et en fait, il y a une espèce de suspicion complètement généralisée. On a l'impression envers les personnes musulmanes ou supposées musulmanes et du coup qu'on suppose étrangères aussi à la nation, quoi.
Pour rebondir sur la question de la laïcité, enfin que vous venez d'évoquer, est-ce que le projet politique actuel et pas plutôt de dévoyer la notion originelle de laïcité pour justement conduire à qu'on on détruise en fait cette notion en droit et qui aurait finalement des effets, enfin les effets, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais est-ce que le projet politique c'est pas de modifier le sens pour qu'on ait justement cette réflexion de est-ce qu'on devrait pas en finir avec la laïcité et que les effets finaux seraient beaucoup plus catastrophiques qu'ils ne le sont aujourd'hui?
Ouais, c'est une manière intéressante de poser la question. Alors pour moi, je prétends pas vraiment pouvoir expliquer ce projet politique de l'intérieur. Mais en revanche, effectivement, alors que ce projet politique soit un dévoiement de la laïcité, en tout cas de la laïcité telle qu'on l'avait compris, enfin telle que son sens s'était stabilisé sur l'essentiel du XXe siècle, je suis bien d'accord. Détruire la laïcité, je ne sais pas s'il y a un projet politique de détruire la laïcité. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'il me semble possible de dire que cette hypertrophie de la neutralité, c'est-à-dire la manière dont les exigences de neutralité redéfinies comme pesant sur les individus, prend le pas sur les autres aspects de la laïcité, est tout à fait notable et n'est pas assez souligné. Par exemple, puisqu'on parlait de la loi séparatisme, ce qui est très intéressant, c'est que la loi séparatisme, elle signe une modification, un recul très grand qui n'a pas été qu'on n'évoque pas quoi, dans le débat public sur la séparation des églises et de l'État. C'est-à-dire que les modifications qui ont été imprimées au droit des associations cultuelles, avec le droit de regard absolument considérable qui est consenti à l'autorité préfectorale sur les modes d'organisation interne des associations ou c'est un peu technique, mais disons que aujourd'hui le préfet, tous les 5 ans, il va avoir son mot à dire sur la perpétuation des associations cultuelles. Ça, on n'avait pas vu ça, en fait. Enfin, c'est une remise en cause inédite depuis 1905 de l'équilibre, de la compréhension du lien entre régime de séparation entre les églises et de l'État et modalité d'organisation interne des religions par les associations culturelles. Donc, effectivement, voilà, moi je ne sais pas si le projet c'est de détruire la laïcité, mais en tout cas, là où vous avez vraiment raison, c'est que cette montée en puissance de la neutralité, elle se fait au détriment de la séparation et de la liberté de culte, pas seulement parce qu'elles ont moins d'importance, mais aussi parce qu'on les détricote par rapport à ce qu'elles étaient sur l'essentiel du XXe siècle. Quoi.
Ouais, t'as raison. On a pas évoqué, on a parlé beaucoup de nationalité et donc de critères de départition entre les Français et les étrangers. On n'a pas tellement parlé du régime applicable aux étrangers. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant et de grave. Alors, dans la nouvelle loi, là, ceux qui vont acquérir un nouveau titre de séjour devront signer un contrat d'engagement au respect des principes de la République, et qui est encore pire que celui d'avant, encore plus long. Il faudra qu'ils s'engagent à bien élever leurs enfants, par exemple. Tu vois, à respecter la liberté d'expression, la liberté d'opinion, comme si les étrangers... Donc il faut comprendre que les étrangers, par principe, ont tendance à mal élever leurs enfants et à ne pas respecter la liberté d'expression, etc. Bon. Donc vraiment, en termes de préjugés racistes, stigmatisants, c'est lourd. Mais tu as raison de souligner, on n'en a pas dit un mot, mais... le non-droit qui s'applique aux étrangers, Daniel Lechac dans les années 80 parlait d'un infra-droit, ça reste malheureusement d'actualité. Et donc les étrangers n'ont pas de droit, les étrangers pauvres n'ont pas de droit, les étrangers riches ont des droits. Bon, parce que c'est l'intersectionnalité, hein. Je veux dire, les discriminations, elles se font sur la base de la race et aussi de la classe et du sexe aussi. Toujours. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi incroyable de voir à quel point, quand tu as de l'argent, d'ailleurs, par exemple, même ta religion musulmane, elle passe très, très bien. Enfin, pas toujours, pas complètement, mais bon, en tout cas, on s'en accommode beaucoup mieux. Donc, il y a ça. Donc, il y a cet infra-droit qui s'applique à eux. Elles sont soumises en permanence à l'arbitraire d'État, à l'arbitraire de l'administration, des préfectures, mais c'est une entreprise institutionnelle d'humiliation des gens. Enfin, je veux dire, on a parlé de la naturalisation, mais pour les titres de séjour, c'est pareil, etc. Et ça, bon, celles et ceux qui sont là ici ce soir le savent sans doute. Mais ce que on pourrait dire aussi, c'est que ça pèse comme une ombre portée sur l'État dans son ensemble. C'est-à-dire que donc celles et ceux qui sont, je veux dire, c'est évidemment, c'est terrible pour les personnes étrangères, évidemment, et on essaye d'être à leur côté pour se battre avec eux. Mais ça dit aussi que, en fait, tous les droits dont les Blancs français bénéficient, c'est quand même aussi des droits qui sont un peu en sursis. Les militants politiques, bon, bah, ils pourraient très bien un jour aussi basculer du côté obscur. Dans ton bouquin, tu dis que certains militants d'extrême gauche sont relaxés. Bon, on voit que bon, ça commence quand même à être très fragilisé. Mais voilà, quand le non-droit est la règle pour pour une catégorie de personnes, ça veut dire que les autres, ils n'ont pas vraiment des droits. Ils ont des droits qu'on leur accorde jusqu'à ce que ceux qui prétendent nous gouverner aient décidé qu'ils aient plus ces droits. Et là, on revient aussi à... il faut aussi souligner que les Français très, très pauvres, hein, les sans-domicile fixe et le lumpel prolétariat français, ils n'ont pas non plus beaucoup, beaucoup de droits. Hein. C'est très difficile de faire valoir ces droits. Les droits, ils sont écrits dans la loi, mais quand tu veux les faire valoir en justice, devant un juge, si tu n'as pas d'argent, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile, même si tu es français. Donc, on voit bien que cet état de droit, il a vraiment plus que du plomb dans l'aile. Et c'est pas pour faire le coup du bon vieux temps. Je sais pas s'il a jamais été si brillant qu'on voudrait qu'il le soit, en bon état. Ouais. Mais en tout cas, aujourd'hui, ces failles, elles apparaissent aussi nettement au grand jour. Et le droit apparaît vraiment, me semble-t-il, comme un de plus en plus. En tout cas, en droit des étrangers, c'est très clair. Le droit court après les pratiques illégales de l'administration. Le droit vient légaliser, légitimer. Et peut-être, ça, c'est aussi quelque chose qui me semble intéressant, puisqu'on parle du droit. C'est que le droit, la loi, les Français sont très attachés à la loi, et les Françaises ont cette espèce de... Il y a ce côté un peu quand même sacré de la loi. Je veux dire, on enferme aujourd'hui les demandeurs et les demandeuses d'asile en rétention administrative sous prétexte de les renvoyer vers un autre État qui va mieux examiner leur demande d'asile, bon, alors qu'on est censé avoir harmonisé les règles applicables à l'asile. On enferme donc des gens qui sont même pas juste des migrants économiques, ça, on a essayé de nous faire croire que c'était normal, mais des gens qui sont dans la catégorie de ceux qu'on est censé accueillir. Bon, on les met en rétention administrative avec leurs enfants. Mais d'abord, on l'a fait de manière illégale, et après, on l'a légalisé. Il y a une loi qui est venue le légaliser. Mais donc, c'est dans le débat public, dans les discussions de famille, etc., à partir du moment où quelque chose a été légalisé, eh bien, c'est comme parer des habits un peu de... Ben voilà, c'est plus difficile. Ouais, c'est légitimé dans l'opinion, même dans notre crânien là derrière. Là. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce truc, et quand tu discutes avec les gens, ouais, mais c'est la loi. Et en plus, il y a aussi ce truc hyper pervers de la période actuelle, c'est que les lois se font de plus en plus vite. Et qu'à un moment donné, quand même, encore une fois, sans vouloir faire le coup du bon vieux temps, il y avait le Parlement était quand même une sorte de chambre d'écho. Ça faisait comme ça, boum, boum, Sénat, Assemblée nationale. Il y avait un temps, il y avait une loi, ça ne se prenait pas en 3 semaines, il y a 30 ans. Et ça prenait du temps. Là, en 15 jours, pouf, ils voulaient nous faire la loi sécurité globale alors qu'on était confinés en procédure accélérée. Les 3/4 des textes sont adoptés en procédure accélérée. Ça veut dire une lecture par le Sénat, une lecture par l'Assemblée nationale. Donc, cette procédure accélérée, elle est devenue la règle. Donc, le Parlement ne débat plus. Bon, d'accord, ça, OK. Mais ça va tellement vite que dans la société civile, on n'a plus le temps de s'emparer des questions. Non. Et pouf, ouais. Et donc, pouf. On
ne peut plus construire d'alliances, de
exactement.
Monter des moments de mobilisation autour du Parlement parce qu'on t'annonce le calendrier législatif. Ces procédures accélérées, c'est fini. Donc, même la société civile n'arrive plus à accéder aux parlementaires en temps utile, quoi.
C'est ça. Et donc... Après, pouf, t'as la loi qui valide l'enfermement des demandeurs d'asile en rétention. Et voilà, et c'est légalisé. Et donc après, c'est par exemple, t'es prof de droit, normalement, la vieille école, les profs de droit, ils enseignaient le droit, ils disaient, voilà, la loi, c'est ça, etc. Et donc, ils pouvaient pas dire, oui, là, c'est scandaleux. Bah, je veux dire, sous Vichy, tous les profs de droit ont commenté doctement, pas tous les profs de droit ont commenté doctement, mais aucun ne s'est rebellé. Et la plupart ont commenté les lois antisémites docilement. Donc, ce que je veux dire, c'est que toute la machine après s'enclenche. Les préfets, ils appliquent la loi, les administrations, ils appliquent la loi, etc. Et donc, la loi, elle a cette force-là, évidemment, d'opérationnalité, mais elle a aussi une force légitimante. Et donc, c'est des lois de plus en plus féroces, de plus en plus ouvertement discriminatoires, et qui font passer la pilule, des pilules qui sont... qui sont bien plus qu'inacceptables. Et si il y a 10 ans je vous avais dit oh, on va enfermer en rétention les demandeurs d'asile, vous m'auriez dit non ça c'est pas possible. Et maintenant voilà c'est légalisé avec plein d'autres trucs hein, qui sont tout aussi graves.
Et bonne... Ouais alors bah, pour continuer à plomber l'ambiance un peu. Pour continuer à plomber l'ambiance, donc sur cette loi, l'immigration dont on parle depuis tout à l'heure, alors du coup, certains éléments les plus extrêmes droitiers ont été retoqués, mais bon, on revient plus ou moins à la version d'origine, si j'ai bien compris. Comment, toutes les deux, comment selon vous, le droit ou des organisations comme le GISTI notamment, parce qu'on n'a pas énormément parlé du GISTI encore, interprète ce texte et éventuellement lutte contre?
Je ne vais pas parler au nom du GISTI en général, mais donc le GISTI, c'est une vieille association qui va fêter ses 50 ans, là, très bientôt. On essaye de documenter et d'expliciter ces dispositions qui sont, comme tu l'as dit aussi, totalement illisibles. C'est-à-dire, le droit est produit de manière... nul n'est censé ignorer la loi, c'est un vieil adage. Mais bonjour, hein, si vous ouvrez le journal officiel sur Internet, c'est illisible. C'est-à-dire, oui, l'article à la ligne A2, le mot « ordre public » est remplacé par « menace grave à l'ordre public ». Dans la loi séparatiste, ils ont la disposition qui ouvre de manière considérable la possibilité de dissoudre des associations pour le ministre de l'Intérieur. C'était juste un alinéa qui avait transformé genre des groupements qui foutent la merde dans la rue par des groupements qui présentent une menace pour une vague menace pour l'ordre public. Alors c'était il y avait marqué à l'article gna, il y avait remplacé dans la rue et remplacé par menace à l'ordre public. Donc bon, je veux dire, voilà, les lois sont faites pour être incompréhensibles par le commun des mortels, ce qui pose quand même un petit souci en termes d'accès. Elles sont faites vite, elles sont incompréhensibles. Je veux dire, de qui se moque-t-on? Mais donc le GISTI, ça c'est aussi c'est très pénible, parce qu'on passe beaucoup de temps tous les 2 ans à décortiquer ces textes qui sont tous plus dégueulasses les uns que les autres. Et on essaye de les rendre accessibles aux personnes intéressées, sachant que en réalité, aux personnes intéressées, aux premières personnes intéressées, c'est impossible. Mais on essaye d'outiller les avocats et les avocates militantes qui s'épuisent à essayer de faire en sorte de rendre ces droits un minimum accessibles aux étrangers. Pour pas les laisser vraiment tout seuls face à la machine d'État. Mais c'est vrai aussi que ça, c'est aussi des stratégies d'épuisement. Parce que pendant ce temps-là, pendant qu'on fait tout ce travail, et comme toutes les associations, on n'a pas des forces qui se démultiplient non plus à l'infini, eh bien, on ne milite pas sur le terrain, par exemple, on ne s'organise pas pour essayer de penser un autre monde meilleur. On n'a pas assez de temps pour ça, parce qu'on est dans le nez plongé dans cette bouillabaisse, pour rester poli. Moi, j'aurais tendance à être vulgaire parfois. Ça, c'est aussi un gros problème pour nous, au GISTI, je trouve. Tu vois, toujours, ils nous bombardent de... et on n'a pas le temps de penser, parce que les modalités d'un autre monde, qui serait un monde où les gens puissent librement circuler, librement s'installer. Comment on fait? Inventer des alternatives, créer des réseaux de résistance, et mettre en lien aussi, et donner de la visibilité et donc de la puissance aussi aux initiatives locales. Il y a plein de gens qui accueillent des gens. Et je veux dire, eux, ils font beaucoup de bruit avec leurs lois racistes et leur rhétorique nationaliste. Mais il y a ici, là, partout, on l'a vu au moment du démantèlement de la jungle de Calais, où ils ont vidé la jungle, ils ont essayé de dispatcher les gens dans des centres de vacances qu'ils ont appelés des CAO, des centres d'accueil et d'orientation. Et donc, ils ont dispatché pas mal de personnes comme ça dans toute la France. Il y a eu plein de villages, des gens qui ont accueilli les individus comme ça au déboté, comme ils pouvaient, etc. Et c'était formidable. Il y a eu plein d'initiatives de solidarité. Et les gens ont découvert à quel point les gens étaient maltraités. Et ils ont fait les états généraux des migrations. Il y a eu plus de 500 associations locales, et plus ou moins parfois nationales, plus ou moins anciennes, plus ou moins nouvelles, qui ont créé ces états généraux des migrations et qui ont porté des textes revendicatifs au gouvernement. Il y a plein de choses comme ça. Pendant la dite crise migratoire, qui n'était pas évidemment une crise, mais pendant la guerre, après l'exode des Syriens, Angela Merkel, elle a quand même dit « on va le faire, on va pouvoir les accueillir ». Bon, je reviens pas là-dessus, mais en Allemagne, pareil. Elle a dit, on va le faire, sinon on va pas pouvoir se regarder dans la glace, etc. En Allemagne, il y a eu des tonnes. Enfin, 80% des Allemands ont fait des trucs. Ils ont donné des cours d'allemand aux gens. Ils ont donné, certains ont donné des habits. Enfin, tout. Les gens se sont. Je veux pas dépeindre. Hein, c'est pas pour dire que tout est rose. Mais ce que je veux dire, c'est que à force de ces lois de merde là, tous les deux ans, on manque de temps. Et je pense que quelque chose qu'on pourrait faire et qui serait vraiment bien, c'est de cartographier ces initiatives locales pour leur donner de la puissance et les mettre en réseau les uns avec les autres. Et parce que je pense que sur tous les domaines, ce qu'il faut, c'est identifier les poches de résistance et créer des liens entre ces poches de résistance, parce qu'à un moment donné, bah, ça va être de plus en plus difficile et de résister et de se mettre en lien en tant que résistant et résistante.
Voilà. Étienne Rabot. Au moment de la Révolution française, excusez-moi, je vais être vague, enfin je vais être imprécise. J'ai souvenir que, alors c'est un protestant qui participe aux écritures des écrits des droits de l'homme, etc. Et la laïcité, il ne faut pas oublier qu'avant tout, c'est pour arrêter les guerres de religion. Aussi. C'est quand même une possibilité de vivre libre de son culte. Dans un pays où on ne va pas te taper sur la gueule parce que tu n'es pas catholique, quoi. Et il y a quelque chose dans ce qu'il disait qui était super important, c'est qu'il ne voulait pas qu'on soit tolérant avec son culte, mais qu'il voulait la liberté. En disant que la tolérance, c'est le fait du prince. Enfin, c'est ce qu'on a... C'est ce... Exactement. Et en ce moment, c'est... j'essaye de faire le parallèle à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'on essaie d'être tolérant avec des situations, en mettant des lois et des relois, des sous-lois. Mais en fait, il faut être libre, quoi. On oublie que la laïcité, c'est pour être libre. C'est pas pour tolérer quoi que ce soit. C'est pour être libre. Et là, en ce moment, on nous fait bouffer des couleurs. Alors, toutes les sauces, toutes les couleurs, c'est la liberté. C'est pas de la tolérance. Et ce type-là, bravo, mais ça serait bien de le rappeler parce que ça pue, quoi, ce qu'on apprend à l'école. Enfin, je fais juste une parenthèse. Hein. En ce moment, j'essaye de poser un projet pour des collèges et lycées, en parlant d'origine, de machin, enfin bon, bref, parce que sur la Méditerranée, il n'y a pas moyen de rentrer ce projet si je ne rentre pas dans les clauses de la laïcité du département ou de la région, quoi. Il n'y a pas moyen. Le seul moyen d'avoir des financements, c'est d'être lu par des techniciens qui ont zéro connaissance de la laïcité. Ça, je peux vous jurer que c'est zéro pointé. Et c'est hallucinant, quoi. C'est dingo, quoi. Donc, on nous impose ce mot. Ils ne savent même plus ce que ça veut dire. Et on est face à des techniciens qui sont ignorants. Et c'est terrible. Hein. Et on impose ça à l'éducation. Voilà. Merci.
C'était pas très important, mais j'avais une réaction à... voilà, au speech final de Karine qui, voilà, tu nous invitais à faire réseau en fait, à résister, à s'inspirer, à faire des choses et ça, à se réconforter entre eux, collectifs ou gens en fait qui, voilà, n'ont pas jeté l'éponge et continuent à faire des choses dans un autre esprit que celui des lois immigration. Et sur le fond, je suis complètement d'accord. Enfin, je pense qu'on a besoin de faire réseau, de se réconforter, tout ça. N'empêche que je me suis dit, des fois, c'est très compliqué parce que même si on a... Enfin, c'est très compliqué, en fait, de l'envisager sans prendre la mesure de à quel point, dans une certaine mesure, on prend des risques aussi. Parce que même si on a voulu nous faire croire à un moment donné que le délit de solidarité n'existait plus, que principe de fraternité, super, merci Cédric Heureux, etc. Bon, ça, le droit, en fait, n'a pas... La jurisprudence, en fait, en la matière, n'a pas résolu tous les problèmes. Et en fait, on ne peut que constater que certains collectifs qui, précisément, s'emploient à faire réseau et à continuer à faire des choses sont quand même un peu visés. Voilà, par une certaine justice, et que du coup, on nous pousse aussi à une certaine discrétion qui implique qu'on ne va pas trop faire la pub, en fait, de partout sur ce qu'on fait. Et ça, voilà, c'est un vrai enjeu, en fait, de comment on invente des façons, en fait, de faire réseau, de se réconforter, de s'aider, etc., en essayant de prendre le moins de risques possible, hein, sachant qu'en face, c'est pas
Mais tu as raison, enfin, le problème, ce n'est pas tellement pour, à la limite, les militants et les militantes. Oui, un peu, mais bon, après, il y a un moment donné, bah, il faut faire... on n'est pas au pays des bisounours, là, je veux dire. Donc, voilà. Mais c'est surtout, le problème aussi, c'est de mettre en danger les personnes étrangères. Voilà, ça, c'est sûr. Non, il faut aussi... Il y a aussi une question technique, je pense, hein, sans vouloir faire de la parano, mais il y a aussi une question technique qui se pose, d'utiliser des réseaux de communication qui ne soient pas WhatsApp, quoi. Tu vois, je veux dire, quand... bon, il y a... Non, il y a... Il y a aussi, je pense, des moyens techniques à inventer. Enfin, des informaticiens et des informaticiennes, je pense, travaillent dessus aussi, voilà, pour mettre en réseau aussi les gens sans sans les mettre en danger. Voilà. Mais c'est pas seulement pour se réconforter. Oui, c'est important de se réconforter, mais c'est aussi pour se donner de la force, pas seulement mentale, c'est aussi... voilà, mettre en commun des expériences, faire fructifier des expériences et documenter des expériences, voilà, et les histoires des luttes et compagnie.
Merci beaucoup, Karine Parou. Vous avez présenté Étranger, Stéphanie Annette Vaucher, vous avez présenté Laïcité. Merci à vous, surtout dans la salle aussi. C'était un super débat. On peut continuer, du coup, sans les micros, devant la librairie ou ailleurs. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Radio Libre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment contents que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin de 8h à 10h. 92.2 sur Canal Sud.